nichons. Où sont-ils, où sont mes nichons? Voilà, c'est bien. Vous en avez pas marre? Merde. Ah, mon cul fut-il si jaloux qu'il ne toléra concurrence, me faisant une faute de goût des plus plates désobligeances. Je n'avais pas vu qu'au-dessus de mon ventre, entre la gorge et le nombril, là où tes mains se tentent, j'étais en fait assez fébrile, et qu'après mille caresses et autant de baisers, avec patience et adresse, tu as su les trouver. Voilà mes nichons sous tes mains. C'est pour mieux sentir pardi dessous mon cœur qui bat, mon cœur qui bat pour toi. Hey, s'ils sont si petits, c'est pour mieux sentir pardi dessous mon cœur qui bat, mon cœur qui bat pour toi.
Où sont mes nichons? C'est un petit hommage à Barbara Weldens, autrice, compositrice, chanteuse française, qui est décédée brutalement sur scène en 2017. Elle n'avait que 35 ans. Elle est morte d'un arrêt cardiaque, d'ailleurs consécutif à une électrocution, un défaut technique du plateau sur lequel elle chantait, et elle chantait pieds nus.
La petite blanche dans du poil sous les bras.
Apprenons aux médecins à soigner les femmes. Tiens, c'est l'occasion toute trouvée de revenir à l'infarctus. Je vous ai laissé le temps d'y penser, de vous poser la question des symptômes féminins. Alors, est-ce que l'infarctus est un bon exemple de maltraitance médicale?
Alors, l'infarctus, c'est peut-être l'exemple le plus parlant de ça. Pourquoi? Aujourd'hui, les femmes sont plus nombreuses à mourir d'infarctus du myocarde que les hommes. Pourtant, peu de gens sont au courant. C'est-à-dire que le cliché de la victime d'infarctus, c'est le gros monsieur qui se tient le bras, qui se tord de douleur et qui tombe. Faut savoir que les symptômes chez la femme d'un infarctus, ils sont pas les mêmes. Ils sont pas aussi spectaculaires. Ça peut être une fatigue sur le long terme, des inconforts intestinaux. Donc en fait, comme ces symptômes-là, ils sont moins documentés, ils sont aussi moins sus, moins connus par le corps médical, ils sont moins connus par les femmes elles-mêmes. Ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs freins à la bonne prise en charge des femmes qui font un infarct. C'est que d'abord, elles-mêmes vont peut-être pas comprendre qu'elles en font un. Les médecins vont peut-être pas comprendre qu'elles en font un. Donc déjà, ça fait qu'elles vont être prises en charge plus tard. En moyenne, une étude disait qu'en moyenne, les hommes, c'était 3h30 d'attente avant la prise en charge, et les femmes, plutôt 4h. Donc il y a une demi-heure de différence, et c'est énorme, une demi-heure de différence. Ça peut faire toute la différence au niveau des séquelles laissées par l'infarctus. Et puis en plus, faut savoir que ces séquelles-là, elles sont plus graves chez les femmes. Donc les femmes sont perdantes à tous les niveaux, et puis par ailleurs ça se voit aussi dans la rééducation après infarctus. J'avais beaucoup parlé avec une femme qui a eu un infarctus très jeune, à 40 ans ou 41 ans, et ensuite elle avait des cours de rééducation, et certains exercices n'étaient pas pensés pour les femmes, et par exemple ça touchait ce qu'on appelle le nerf honteux, qui existe uniquement chez les femmes, donc elle pouvait pas les pratiquer, et le cours avait pas, cette question là n'avait pas été pensée. Et puis par ailleurs, la question de la sexualité, elle est après infarctus, de la reprise de la sexualité pour les gens, elle est abordée avec les hommes, parce qu'on imagine que un homme ça doit baiser, c'est important pour qu'il soit heureux. Mais pour les femmes, elle racontait, cette victime d'infarctus là, qu'elle avait jamais entendu parler de ça, elle savait pas. Pourtant elle voulait refaire l'amour avec son mari, mais elle savait pas si c'était bien pour elle, et c'était très très dur de trouver des infos, alors que les garçons dans son cours de rééduc, ils avaient toutes les infos.
Gros sujet, la sexualité. On pourrait parler longuement de comment les organes sexuels féminins appartiennent aux hommes en médecine, comment les femmes sont dépossédées de leur corps dès l'adolescence, alors même que la médecine fait peser sur le corps des femmes tout le poids des responsabilités, contraception, reproduction, sexualité. Et bien dans le même temps, la violence misogyne est partout.
Alors nous, on a choisi de parler de violences misogynes, parce que c'est des violences qui sont commises sur des femmes et par un mépris, en tout cas, de leur ressenti. Donc on considère que c'est des violences misogynes. Le secteur où on voit, où cette violence misogyne, elle est la plus prégnante, c'est Bah, c'est la gynécologie et c'est l'obstétrique. Parce que on touche au corps de la femme et c'est une médecine qui est spécialisée dans l'appareil génital de la femme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la femme, elle est censée avoir deux fonctions, c'est enfanter ou donner du plaisir à un homme. Bon. je rigole, mais quand on écoute les nombreuses victimes de violences gynéco-obstétricales, c'est ça qu'elles racontent, quoi. C'est-à-dire que pendant l'accouchement, on va les maltraiter, on va les insulter, on va leur dire de faire un effort, on va pas les écouter alors qu'elles disent qu'elles ont hyper mal et que là il s'agirait de commencer à pousser, on va leur dire non, votre col est pas assez dilaté, alors que si le col était complètement dilaté. Ça va être des femmes qui ont super mal, soit à cause d'une maladie de la vulve, soit à cause d'une endométriose qui n'est pas diagnostiquée, mais ça va durer des années avant qu'on leur pose un diagnostic, parce qu'on va imaginer que bah, c'est dans leur tête et qu'elles devraient faire un petit effort en plus pour leur compagnon, parce que si le pénis y rentre pas, c'est que c'est un peu leur faute, quoi. Et on s'en fiche qu'elles prennent du plaisir ou pas, d'ailleurs, parce que, comme chacun sait, la sexualité, elle est forcément... pénétrative et avec un pénis, mais oui, voilà, c'est la branche de la médecine dans laquelle les violences misogynes arrivent le plus, parce que par essence, c'est la branche de la médecine qui s'occupe de la santé de la femme, de l'accouchement, et puis des problèmes gynéco de la femme. Donc c'est là que certains professionnels de santé peuvent laisser complètement libre cours à leur misogynie. Et puis c'est aussi la branche où les femmes cis sont les plus assujetties aux médecins et aux sachants, parce qu'on est complètement à leur merci. En fait, quand on a les deux pieds dans les étriers, on peut rien faire. Et puis en plus, on est super stressé, ça touche à l'intime. C'est là où on est les plus vulnérables aussi, quelque part. Il faut savoir qu'en France, systématiquement, les femmes accouchent dans cette position-là. Alors que c'est pas du tout la position la plus confortable pour la femme qui accouche. Alors pour les médecins, ça l'est parce qu'ils peuvent bien voir, mais pour les femmes, c'est vraiment pas pratique. Par exemple, on cite une sage-femme qui avait fait des travaux là-dessus. Il y a plein d'autres positions qui existent en Angleterre, par exemple. C'est assez fréquent de proposer à la femme de se mettre en décubitus latéral, donc elle va se mettre sur le côté, en écartant une jambe, et ce sera beaucoup plus facile d'accoucher pour elle. Et puis elle peut même varier les positions, en fait. Mais voilà, on a cette croyance en cette position-là, et on ne remet jamais en cause l'ordre établi, quoi.
Ah, le vaste sujet des violences obstétricales et gynécologiques. Hashtag VOG sur les réseaux sociaux. Pas facile de faire évoluer le monde médical, particulièrement justement dans ce cas des violences obstétricales et gynécologiques. Parce que c'est jamais facile de reconnaître la maltraitance de sa profession, ça demande de regarder en face sa façon de travailler, ça oblige à une remise en cause profonde, à laquelle, il faut bien le dire, ne sont pas habitués les corps sociaux privilégiés dont sont les médecins. Pourtant, le point du mari, sorte de mutilation du corps des femmes pour le soi-disant plaisir de l'homme, eh ben ça existe. Les témoignages de femmes qui parlent de stress post-traumatique après un passage chez le gynécologue, ça existe.
C'est toujours la même chose, l'histoire se répète. Hein. Le hashtag balance ton... paye ton utérus, pardon. C'était en 2014 et suite à ça, il y a eu une vague de dénonciations des violences obstétricales et gynéco sur les réseaux. Et déjà à l'époque, la première réponse du CNGOF, qui est le Collège National des Gynécos, ça a été « Stop le gynéco-bashing ». Et c'est dingue parce que c'est le réflexe, quoi. Alors, pour rendre justice à Israël Nizan, qui était le directeur de cet organisme à l'époque, quelques mois plus tard, il est revenu sur ses propos en disant « peut-être qu'on a mal réagi ». Donc voilà. Mais bon, ça a pris quelques mois quand même. Et puis, il faut voir que bah, 8 ans après, ça recommence en fait. Ils ont de nouveau la même réponse. J'ai envie de dire une phrase qu'on entend souvent en anglais dans les séries, c'est « this is not about you ». On ne parle pas de vous là. C'est pas vous le sujet. Le sujet, c'est les patientes. Elles ont des choses à dire. Et vu le nombre qu'elles sont... il y a fort à parier que ce soit plutôt systémique comme problème et que ce soit pas des petites histoires isolées. Parce que c'est ce qu'on nous dit aussi beaucoup. Et y a quand même un corporatisme qui est très fort. Et il ne faut pas oublier que les médecins, les soignants, ils peuvent être en souffrance aussi. C'est-à-dire qu'il y a très peu de moyens aujourd'hui pour l'hôpital public qui est complètement en crise. Et puis même des médecins libéraux qui n'ont pas beaucoup de temps, surtout dans les petites villes, et parlons même pas des déserts médicaux. Et parfois, ils se retrouvent maltraitants contre leur gré. Bon, ça, on le nie pas, ça existe, mais par contre, ce réflexe de tout de suite se défendre et dire que c'est anecdotique et que ouin ouin ouin, on est gentil, c'est n'importe quoi. Parce que c'est un nombrilisme dingue et puis ça pose question. Pourquoi vous avez voulu faire ce boulot si c'est pour vous centrer sur vous, en fait? Moi, je comprends pas. Et puis voilà, dans Le Monde encore, il y a eu un article il y a 2 semaines qui en parlait, où c'était que des gynécos qui disaient stop au gynéco-bashing. Nous, on n'en peut plus, parce que le gynéco-bashing, quand même, moi, je pense qu'il est nécessaire, parce que quand on voit que le syndicat majoritaire, le Syngof, avait un président encore en 2018 qui disait que l'IVG était un homicide, une secrétaire générale qui disait que si les femmes voulaient vraiment être légales des hommes, fallait qu'elles arrêtent de demander des arrêts de travail après une IVG. Ben moi je dis que si, il faut, même si c'est peut-être parfois un peu dur, il faut en faire du gynéco-bashing, parce que là c'est trop quoi.
Dans le livre Les patientes d'Hippocrate, il y a des témoignages de femmes. Dans l'un d'eux, une femme dénonce un vol de son temps. La même ou une autre, je ne sais plus, explique que son conjoint ne pourra jamais comprendre ce qu'elle a vécu comme violence, car lui ne subira jamais cela. Il ne sera jamais une femme ballottée entre les services avec son corps qu'on traite avant un jour, peut-être, de se poser la question de savoir si l'infertilité ne vient pas du mari. C'est concret, la maltraitance. Ça a des conséquences.
Il faut savoir que quand on parle de maltraitance... Beaucoup de gens ont en tête forcément le viol gynécologique, ou voilà, mais la maltraitance, elle est protéiforme. Ça part de la remarque plus que déplacée, voire sexiste, voire misogyne, voire harcelante d'un médecin qui va nous dire qu'on est trop grosse et qu'on voit rien pendant un toucher vaginal, ou que franchement... une nana qui souffre de vaginisme, on va lui dire de se détendre et qu'elle pourrait faire un effort. Ça, c'est déjà des violences, en fait. Les violences, ça peut être aussi la non-écoute. Une femme qui a mal, qui dit qu'elle a mal, et on la prend pas, on prend pas en compte sa douleur, et elle repart avec grand max aller du space-fond, alors qu'au final, ça fait 3 ans qu'elle a une endométriose carabinée. Enfin bon, tout ça, déjà, c'est des violences. Alors, on les a pas frappées, on les a pas violées, on leur a pas fait mal physiquement, mais c'est déjà de la maltraitance et ça crée des séquelles et puis ça désincite les femmes en fait à s'affirmer devant le corps médical, et ça renforce quelque part aussi un peu la soumission quoi, parce qu'on a peur et parce que on se dit que de toute façon vu comment on est reçu de l'autre côté, ce sera peut-être plus rapide de rien dire quoi. Faut se rendre compte que voilà, c'est tout ça les violences, les violences dans la médecine, les violences faites aux femmes dans la médecine, et donc pas mal de femmes pensent peut-être qu'elles n'ont jamais été maltraitées par leur médecin parce que voilà, elles n'ont jamais eu un gynéco affreux, mais bon, si on essaie bien de se rappeler de toutes nos consultations, c'est forcément arrivé, en fait, c'est forcément arrivé, une remarque déplacée, un geste déplacé, un truc qui nous a blessé, une non-écoute, une non-prise en charge, des moqueries aussi, ça c'est forcément arrivé, et faut pas se leurrer, les violences, elles existent.
Allez, avouez, vous avez cru que j'allais vous balancer du Mireille Mathieu. Eh ben, j'ai failli. En vrai, j'en avais très envie. Moi, j'adore cette chanson, mais j'assume pas vraiment mes goûts musicaux. Même si, voilà, j'ai une certaine tendresse pour Mireille Mathieu. Alors, ok, elle était peut-être de droite. Elle est peut-être d'ailleurs pas morte. Elle est peut-être toujours de droite. Mais bon, avec la coupe de cheveux qu'elle a, on peut pas complètement la détester. Et puis, elle était l'aînée de 14 enfants. Alors bon, selon moi, on peut bien lui pardonner certaines choses.
Bravo, tu as gagné. J'ai tout perdu.
La petite blanc dans du poil sous les bras.
Je crois qu'un des trucs qui me met le plus hors de moi, c'est quand un médecin dit à quelqu'un, ou à quelqu'une en l'occurrence, c'est dans la tête. C'est un peu typique, ça, de la maltraitance envers les femmes. Le plus dommage, c'est que parfois, les médecins se servent de cela pour cacher leurs lacunes. Ils ne savent pas, alors c'est plus facile de minimiser ou de sous-estimer la douleur, par exemple. L'histoire a montré que tant qu'une preuve scientifique ne valide pas la parole des femmes, eh bien, ces dernières ne sont pas crues là où des hommes seraient, eux, pris au sérieux.
La souffrance de la femme est souvent psychologisée. C'est-à-dire que on va penser qu'elle en fait trop. C'est marrant parce que quand on lit un peu les travaux sociologiques autour de ça, on réalise que les femmes, elles ont tendance à intérioriser, au contraire. Elles ont tendance à prendre sur elles, parce que très souvent, c'est elles qui gèrent soit le couple, soit le foyer, ou alors, si elles sont célibataires, la charge émotionnelle par rapport à tous leurs potes. Enfin bon, c'est des gens qui intériorisent beaucoup, mais le cliché voudrait que la femme soit hystérique, on l'a déjà dit, qu'elle en fasse des caisses, et ouais, psychologiser beaucoup. Donc on va considérer qu'elle est peut-être plus anxieuse, qu'elle est peut-être plus déprimée, et ça conduit à des erreurs de diagnostic. Dans tous les domaines, hein, que ça soit dans le domaine psychiatrique ou même dans le domaine, on parlait des infarctus tout à l'heure, on va penser qu'une nana qui fait un infarct, en fait, elle fait une crise d'angoisse. Et c'est quand même assez dingue parce qu'il y a cette présomption d'hystérie. Nous, on appelle ça la présomption d'hystérie chez la femme. C'est pas la présomption de quelqu'un qui arrive de manière neutre à l'hôpital et on va chercher ce qu'elle a. On va partir du principe qu'elle est peut-être un peu qu'elle exagère, quoi. Ce qui n'arrive pas pour les hommes. Donc voilà, on psychologise beaucoup et ça conduit à des retards de diagnostic qui sont parfois très 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 graves.
Concrètement, les violences médicales, les sous-diagnostics par exemple, directement induits par la misogynie des médecins, ont des conséquences qui coûtent cher aux femmes et qui coûtent cher à la société dans son ensemble d'ailleurs. La maltraitance des femmes se traduit parfois par des parcours de non-soins en fait, qui durent des années, qui coûtent, qui usent et qui au final ne rendent service à personne.
L'exemple pour lequel on a eu le plus de retours pour le moment et qui est un des plus terribles, en fait, sur le plan psychique, c'est celui de la patiente qui souffre de vulvodynie. Donc, en fait, c'est une maladie rare de la vulve, et ça cause des douleurs pas seulement pendant la pénétration, mais tout simplement au toucher, au frottement. Donc, savoir que cette fille, elle avait tellement mal à certains moments qu'elle pouvait même pas mettre un jean, quoi. C'était des brûlures. Elle a eu plusieurs années d'errance diagnostique. On lui a diagnostiquer d'abord des trucs qui n'étaient pas du tout ce qu'elle avait, une mycose, une infection, vaginisme aussi. Elle était tellement désemparée qu'elle a multiplié les praticiens. Elle me dit qu'elle en a vu une cinquantaine en tout. Et puis à chaque fois, on lui disait que c'était dans sa tête. Parce que faut savoir que sa maladie, elle est rare. En France, en tout cas, il n'y a pas de recherche là-dessus. Alors, il y en a un peu plus dans les pays anglo-saxons, mais en France, non. Et la médecine, elle n'accepte pas de ne pas savoir. Donc, quand elle ne sait pas ce qu'une personne a, elle aura tendance à dire, si on ne voit pas ce que c'est que ça n'existe pas. Donc, ça n'existait pas. On lui a donné des crèmes, ça n'allait pas. On lui a donné... on lui a prescrit des séances de sexothérapie, alors que c'était pas le sujet non plus. Et puis, un beau jour... on l'envoie en hôpital psychiatrique, quoi. En hôpital psychiatrique, elle n'était pas hospitalisée, mais elle faisait des séances avec un psychiatre là-bas. Et en fait, ce type, au bout de 3 mois, elle a réalisé qu'il ne savait même pas qu'elle avait une vulvodynie. Donc en fait, elle venait là seulement pour être traitée de manière psychiatrique, et elle n'avait rien. Enfin, je veux dire, elle n'avait rien. Si, elle était complètement dépressive à cause de tout ce qui lui était arrivé, mais elle n'avait pas de pathologie grave type bipolarité, schizophrénie, enfin voilà, ce dans quoi on essayait de l'arranger, quoi. Et quelques années plus tard, je sais plus combien de temps après exactement, mais finalement, elle a eu le diagnostic, elle avait une vulvodynie, donc une maladie rare de la vulve, et elle a été complètement psychiatrisée tout du long. Il y a même un médecin qui lui a demandé si elle était pas lesbienne. Parce que ça aurait été une maladie très grave et que ça aurait été peut-être la réponse à tout, en fait, parce que si on veut pas un pénis, peut-être que c'est ça, en fait. On l'a pas écoutée parce qu'elle posait problème. Comme son cas, il est pas étudié et il est pas connu, elle posait problème. Et ce problème-là, il fallait s'en débarrasser en le psychiatrisant, quoi. Un autre exemple qu'on aborde dans le bouquin, quand on parle aussi du masculin neutre, c'est l'autisme chez les femmes. Faut savoir que donc nous, on a rencontré plusieurs femmes autistes qui ont toutes eu une errance diagnostique de plusieurs années. Et cette errance diagnostique, elle a plusieurs causes. Faut savoir que les femmes autistes, elles passent très souvent en dessous des radars. On les voit pas, on les diagnostique pas. Tout simplement parce que quand on est une femme, on est socialisé à essayer de correspondre au moule et à pas faire de vagues. Donc c'est-à-dire que les autistes, ils ont des intérêts spécifiques. Ça va être par exemple quelqu'un qui est fou des trains, ou quelqu'un qui, ça peut être aussi fou de la littérature classique, hein, mais ça peut être... Et les intérêts spécifiques chez les garçons, ça va être beaucoup plus accepté dès l'enfance que ce soit des trucs un peu spéciaux, bah, comme les trains, ou je sais pas, les différents modèles de casseroles. Mais chez les femmes, ce sera justement plus dans une norme acceptée, donc ce sera des intérêts, comme je disais tout à l'heure, la littérature ou le dessin. Donc on va pas penser que c'est un problème, on va penser qu'elle est juste passionnée. Et puis par ailleurs... comme une femme essaiera plus de coller à la norme parce que c'est ce qu'on lui a inculqué, elle va plus soutenir le regard, par exemple, en consultation. Et ça, c'est un de leurs éléments qui leur permettent de voir que quelqu'un est autiste. C'est quelqu'un qui, entre autres, pourra pas regarder quelqu'un dans les yeux, aura beaucoup de mal et va fuyer le regard. Les femmes vont beaucoup moins faire ça parce qu'elles ont appris. Donc elles vont passer sous les radars, comme je disais. Et puis aussi, faut dire que on va imaginer, comme je disais tout à l'heure, qu'elles en font trop, qu'elles s'inventent une vie. Et voilà, et on a eu plusieurs exemples de femmes qui ont dû batailler pour avoir un diagnostic, alors qu'elles se rendaient bien compte que quelque chose n'allait pas, et que c'était pas juste anecdotique, c'était une différence de fonctionnement, quoi. Dont une qui était passée dans un centre spécialisé pour un diagnostic, et on minimisait son récit. Par exemple, elle disait qu'elle avait un intérêt dévorant pour les plantes, je crois, ou un certain type de fleurs. Et dans le compte-rendu, c'était marqué « Madame aime jardiner ». Donc voilà, faut voir aussi comment on interprète ce que les femmes disent et comment on interpréterait ce que les hommes disent. Parce qu'il y a fort à parier que si un homme s'était planté dans le même centre en disant « J'adore les trains, je suis fascinée par les trains, c'est ma vie », eh ben on n'aurait pas dit... on l'aurait directement diagnostiqué, quoi. Et donc ces filles-là, elles nous racontent ça. Elles nous racontent comment on les a pas écoutées, comment on a essayé de leur diagnostiquer autre chose aussi. Ça, c'est quand même hyper grave. Il y en a une, il me semble qu'on avait essayé de lui diagnostiquer une pathologie qui n'avait rien à voir. Et ce qui est très grave, c'est que quand on diagnostique une pathologie qui n'est pas... Faut savoir que l'autisme n'est même pas une pathologie, c'est juste une différence de fonctionnement, quoi. Mais quand on diagnostique une pathologie, du coup, il y a un traitement aussi qui va avec. Et donc, c'est vachement grave de prendre un traitement pour quelque chose qu'on n'a pas. Et ça arrive à pas mal de femmes autistes. Et ça, il y a aussi un psychiatre qui m'en a parlé. Donc, des femmes qui sont autistes, et on imagine qu'elles sont peut-être, je sais pas, schizophrènes. Et donc, elles ont un traitement gigalourd, quoi. Et c'est n'importe quoi, et c'est grave.
Mot de le reste, le dit sans chichi, c'est n'importe quoi et c'est grave. Bon, c'est un des points qui me paraît important, la gravité. Ne pas penser que tout cela est anecdotique, qu'on ne devrait pas en faire tout un plat, ça va, c'est bon, on a compris. Il y a des erreurs médicales, c'est normal, ça arrive, ça continuera d'arriver, ça c'est ok. Mais il ne s'agit pas de ça ici. Il s'agit de dénoncer comment, à cause du sexisme, ce ne sont pas quelques erreurs de ci, de là, mais tout un système qui crée des dégâts importants. Et en même temps, il faut reconnaître que les choses évoluent, et notamment grâce aux femmes qui prennent conscience de ces maltraitances, qui pointent les défaillances et qui n'acceptent plus, ou moins, toutes les remarques déplacées, moralisatrices, violentes ou stupides.
Les choses évoluent, hein. C'est pas complètement négatif le tableau qu'on dresse. Notre but, et ça on l'explique bien dans le bouquin, c'est pas de jeter l'opprobre sur la profession, pas du tout. Évidemment, il y a plein de médecins qui sont super et qui écoutent. La preuve, c'est qu'on en a des médecins super et qui nous écoutent. Et puis, il faut dire que la jeune génération, elle est beaucoup plus préoccupée par ces sujets-là. Ça se voit aussi dans les modules de cours qui sont proposés aux étudiants en médecine. Ça se voit aussi dans les prises en charge. Maintenant, il y a par exemple des sages-femmes ou des gynécos pendant la consulte qui proposent de la femme de par exemple pouvoir cacher son pubis, qui propose parfois même d'insérer le spéculum elle-même si elle s'en sent capable. Voilà, il y a plein d'initiatives qui existent. On dit pas que c'est encore majoritaire, mais ça bouge en tout cas, et parce que les paroles des femmes sont quand même parfois entendues et que certains et certaines sont obligés de les prendre en compte. Donc il y a du positif et voilà.
Il y a beaucoup de choses qui me semblent importantes et qu'on n'a pas assez dit dans cette émission. Que vestibulite et vulvodynie, bah, ce ne sont pas des gros mots, mais des grosses maladies. Que oui, les femmes sont plus anxieuses en moyenne que les hommes, mais cette anxiété est causée par la société, elle n'est pas innée, elle n'est pas biologique. Que la notion de consentement est encore trop balbutiante lors de certains examens médicaux. Que la souffrance, c'est l'effet négatif de la maladie, c'est pas la même chose que la douleur et c'est encore trop peu pris en compte. Que les violences misogynes s'inscrivent dans un système de domination. On n'a pas fini de parler de tout ça, mais on a presque fini cette émission. Alors avant cela, moi j'avais envie de dire un mot d'Hippocrate, puisque le bouquin s'appelle « Les patientes d'Hippocrate ». Alors Hippo, c'est un ancien médecin et philosophe grec, mais genre hyper ancien. C'était avant MeToo, avant l'arrivée des patates en Europe, avant Judas. Il est mort, hein. Et il était, ou il est encore considéré, comme le père de la médecine occidentale. Et c'est pour ça que nos médecins et nos médecines prêtent serment autour d'Hippocrate. Bon, c'est qu'un serment, il n'engage à rien juridiquement, il a une valeur symbolique. C'est une sorte de vernis déontologique qui peut varier, qui varie d'ailleurs selon les époques ou qu'on soit en France ou au Canada. Et à propos de Canada, je salue nos amis québécois puisque Du Poil Sous les Bras est aussi diffusé désormais à Québec sur Skia FM 88.3, une radio que vous pouvez soutenir d'ailleurs en allant sur skiafm.org. Allez, on passe au poil dans Du Poil Sous les Bras et on écoute ce que mon invité a à nous en dire.
Mon rapport au poil, il est un peu compliqué parce que je sais que en tant que femme, on n'a aucune obligation de le faire et on devrait s'émanciper de la plupart des carcans esthétiques qui nous sont imposés, mais j'en suis pas encore là, c'est-à-dire que je suis un peu une obsédie du poil et je le traque et j'ai pas envie de le voir. Donc c'est pas très féministe, hein, mais je travaille là-dessus.
Si vous êtes en train d'écouter cette émission, vous savez probablement qu'elle s'appelle « Du poil sous les bras ». Et je me suis dit que je ne parlais pas assez des poils, alors même que ce n'est pas anecdotique comme sujet. Nos poils disent beaucoup de choses de nous, de la société dans laquelle nous vivons. La présence ou l'absence de poils, pourquoi on s'épile ou pas, notre rapport à la pilosité est particulièrement intéressant à étudier. Et à ce propos d'ailleurs, je vous recommande d'écouter notre très bonne émission Du Poil Sous les Bras sur la résistance à l'épilation avec Milena Younes-Linhart. L'émission est disponible en podcast ou en balado selon votre longitude. Alors aujourd'hui, je vais vous dire un mot de l'odeur des poils. Parce que si une large majorité des Françaises, et de plus en plus de Français, et de Québécois sûrement d'ailleurs, s'épilent tout ou partie de leurs poils, eh bien c'est peut-être à cause de l'odeur supposée ou réelle de ces petits filaments, notamment quand ils sont sous les aisselles ou au niveau de l'aine. L'aine qui se situe à l'entrejambe, je le précise parce que je ne sais pas pourquoi je voyais l'aine ailleurs. Alors, l'odeur des poils, mythe ou réalité? Est-ce que vous épiler vos aisselles limitera votre odeur corporelle? En vrai, oui, quand même, un peu. Mais ça ne devrait pas être un problème. Alors, d'abord, précision. Garder des poils sous les bras ne vous fera pas transpirer plus. Votre quantité de sueur ne changera pas que vous ayez des poils ou non. Pour l'odeur, c'est un peu subtil. En fait, plus vous avez de poils, plus la quantité de bactéries présentes sur ces poils augmente. C'est logique. Et ce sont ces bactéries qui font apparaître l'odeur. Sans bactéries, pas d'odeur. Par contre, plus de poils égale plus de bactéries et plus d'odeur. Techniquement, c'est pas la sueur qui sent mauvais. A priori, la sueur, bah, c'est surtout de l'eau salée. Mais la sueur permet aux bactéries de macérer un peu dans les poils. Elles kiffent la baignade et elles se développent. Et ce qui en dérange certains ou certaines, c'est l'odeur qui provient de ces bactéries qui vivent sur les poils. Tout ça à cause des glandes sudoripares, les glandes situées sous la peau, et qui produisent de la sueur pour permettre la thermorégulation, c'est-à-dire le maintien d'une température corporelle normale grâce à la transpiration, mais c'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est l'odeur. Et c'est pour contrer l'odeur déplaisante dégagée par ces bactéries que dans les déodorants, il y a de l'alcool qui neutralise ces bactéries. Alors attention, je ne suis pas en train de vous recommander d'utiliser des déodorants, loin de là. Je précise juste leur action. Et puis, l'alcool, moi je préfère en boire que d'en mettre sous mes bras. Vous avez dû remarquer aussi que lorsqu'on mange certains aliments, odorants ou malodorants selon les points de vue, eh bien les odeurs qu'on dégage ne sont pas les mêmes. Alors une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? On s'épile? Pas forcément. D'abord, on a une hygiène correcte, adaptée, plus prononcée sur les zones susceptibles de développer des bactéries responsables de mauvaises odeurs, aisselle, entrejambes. Et puis surtout, on réapprend à vivre avec